BW. Vue d'Allemagne.
Willkommen, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce magazine sur la République fédérale, magazine que vous écoutez peut-être via Internet. Internet qui fonctionne mal dans les écoles en Allemagne, on en parle dans un instant. Et puis dans la seconde partie de ce magazine, d'ici quelques minutes, direction l'Afghanistan. Si les États-Unis sont en train de négocier avec les talibans pour leur retrait et parlent de progrès dans le pays, certains s'inquiètent là-bas. Des hommes et des femmes qui ont vécu sous le contrôle des talibans dans certaines régions. Des années noires, pour eux, ils nous raconteront. Mais d'abord donc, l'actu en Allemagne. Los geht's, c'est parti. Ce son, c'est celui d'un modem 56K, un des premiers appareils pour se connecter à Internet pour le grand public en Allemagne dans les années 90. Un appareil dépassé dont on utilise encore parfois l'image pour évoquer les problèmes de connexion en Allemagne via ordinateur ou téléphone portable. Il y a en effet encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine, et notamment dans les écoles.
Man kann Hurricane sehen.
On peut voir un hurricane.
Si
ça charge, faut un peu de temps.
La scène que vous entendez là se passe dans l'ouest du pays, en Rhénanie du Nord-Westphalie, à Siegburg, une ville, 40 000 habitants. Et pourtant, ce matin-là, la prof de sciences Christina Müller a beaucoup de mal à charger une vidéo depuis Internet pour la montrer à ses élèves. Une scène quotidienne dans les écoles du pays en 2019. Ce qui fait réagir côté politique et a conduit à des semaines de négociations pour un pacte digital dans tout le pays pour les écoles. Alors ce pacte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État allemand va débloquer plusieurs milliards d'euros, 5 milliards d'ici 2023. De l'argent pour équiper les écoles en matériel informatique, des tableaux numériques, des connexions Wi-Fi ou encore des ordinateurs. Un investissement qui peut paraître anecdotique et pourtant, comme le raconte Sabine Trautwein, la directrice de l'école que vous entendiez il y a un instant, le sujet est important en Allemagne, dans les écoles comme dans la sienne, par exemple.
Le Wi-Fi est toujours un sujet qui suscite beaucoup de mécontentement. Nous sommes ici dans des bâtiments qui sont classés et pour la plupart pentus. C'est pourquoi nous ne sommes pas encore aussi bien équipés en Wi-Fi, du moins pas dans toutes les pièces. Et là, on nous a promis que c'est l'une des premières choses qui sera mise en œuvre. Que nous n'aurions pas seulement le matériel, mais que ça fonctionnerait aussi.
Alors, vu de certains pays qui disposent de moyens conséquents, on se dit que tout cela est anecdotique, c'est de l'investissement. L'Allemagne a de l'argent, elle l'investit dans le futur pour ses élèves. Mais cette décision d'investir a pris des mois parce qu'on est en Allemagne une république fédérale. Or, l'État central n'a pas en charge les écoles, ce sont les Länder, donc les régions, qui paient, décident de l'organisation scolaire, emploient les professeurs. Il fallait donc se mettre d'accord au niveau politique sur un changement constitutionnel. Un changement constitutionnel pour que l'État central ait le droit de financer tout cela. Un changement pas simple, les Länder tiennent à leurs compétences et cet investissement par l'État dans les écoles de tout le pays a même suscité des critiques. À l'image de Hans-Jürgen Papier, avocat spécialisé en droit constitutionnel et président de la Cour constitutionnelle fédérale allemande de 2002 à 2010.
Je voudrais souligner politiquement que la modification prévue de la loi fondamentale est un pas de plus vers une érosion progressive du fédéralisme. Et l'État fédéral fait partie des principes constitutionnels de l'Allemagne. On crée ainsi progressivement à partir de la République fédérale d'Allemagne un État unitaire dans lequel, à un moment donné, les États fédéraux n'ont plus leur propre statut d'État comme la loi fondamentale le veut ou le présuppose en réalité.
Finalement, un accord a été trouvé, mais là encore, il fallait ensuite décider qui paierait quoi. On pensait faire 50-50, 50% de financement par les régions, 50% par l'État central. Cela a été refusé pour ne pas que certaines régions les plus pauvres se voient contraintes de ne pas investir, car elles ne pourraient pas financer les 50% de projets qui leur reviendraient. L'accord final, qui doit être validé ces jours-ci, prévoit finalement donc des financements au cas par cas. On verra en fonction des écoles et des régions comment ça se passe, qui finance quoi. L'État central pourrait en tout cas parfois financer aussi les salaires de personnes chargées d'entretenir des réseaux informatiques dans les écoles. Un point délicat aussi, car encore une fois, Berlin ne finance normalement pas les personnels scolaires. Reste qu'à ces 5 milliards investis d'ici 2023, il faudra ajouter encore de l'argent pour la formation continue des professeurs, par exemple. Qu'ils sachent utiliser le matériel, se mettent à jour avec les logiciels ou encore fassent des stages régulièrement. La ministre de l'Éducation du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Yvonne Gebauer, s'attend déjà à de nouvelles négociations entre Länder, les régions et l'État fédéral. Son territoire devrait déjà toucher 1 milliard prochainement.
C'est beaucoup d'argent, mais il faut continuer, surtout en ce qui concerne la numérisation. Et nous parlons là de choses comme le soutien et la formation des enseignants. Dans ce domaine, nous serons peut-être prêts pour le musée après-demain avec les appareils actuels, surtout dans le cadre de la numérisation qui évolue très vite. Comme je l'ai dit, le milliard d'euros pour le financement est de démarrage. Mais bien sûr, nous devons aussi penser à un financement fédéral permanent ou entamer des négociations.
Et sous-entendu des négociations pour éventuellement un financement par l'État à long terme pour le matériel donc et le personnel, ça promet de longs débats à venir. Selon des sondages, les Allemands seraient en tout cas favorables à une prise en main complète par l'État central du système éducatif allemand. La gestion majoritairement régionale pose souvent des problèmes dans le pays, pas seulement pour le financement du matériel informatique, mais aussi parce que, par exemple, certains examens de fin de scolarité, comme l'abitur par exemple, ne sont pas les mêmes partout. Quand les élèves devenus étudiants veulent changer de région, ça peut poser problème. En attendant ces débats, peut-être que dans le lycée de Siegburg, où nous étions au départ, la vidéo et les cartes de la professeure qu'on entendait auront pu être chargées avec un système de Wi-Fi tout neuf.
Ah ouais, on voit un continent, je crois. On est au Kenya ou en Tanzanie.
Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome.
Welcome to the Internet, bienvenue dans Internet du groupe allemand Fractus. Alors Fractus, vous l'entendez, mais ça n'existe pas. Oui, je sais, c'est bizarre ce que je raconte. En fait, Fractus, c'est un vrai faux groupe. Un moment de délire du réalisateur allemand Lars Jensen. En 2012, il sort un vrai faux documentaire. Accrochez-vous, c'est un peu compliqué. Il raconte l'histoire du groupe imaginaire Fractus en interrogeant de vrais artistes sur l'influence de ce groupe sur la musique au fil des ans. Des vrais artistes qui se prêtent au jeu et se confient donc sur ce faux groupe qui est totalement inventé. Donc, histoire farfelue sur fond de critique de l'industrie de la musique. Vue d'Allemagne, seconde partie de ce magazine, partie internationale où on prend le chemin de l'Afghanistan. Les discussions entre Américains et Talibans autour d'une fin de la guerre ont repris au Qatar. Washington espère arriver à un accord et retirer ses soldats de l'Afghanistan. En janvier dernier, les deux parties s'étaient déjà mises d'accord pour envisager un retrait progressif des soldats américains sur place. En échange, les Talibans s'engagent à empêcher Al-Qaïda de s'implanter sur place. Mais cette ébauche d'accord crée beaucoup d'appréhension chez les Afghans, en particulier ceux qui ont vécu sous l'autorité des talibans déjà dans le passé. Des habitants qu'a rencontré notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
Peu de villages afghans ont vécu sous la gouvernance des talibans pendant aussi longtemps. Pendant plus de 10 ans, Sadel, dans l'est du pays, s'est plié à l'autorité des combattants du Mollah Omar. Depuis environ 3 ans, la police a repris le village. Lokman n'a que 18 ans, il est étudiant. Il a grandi avec les talibans et il n'en garde pas un bon souvenir.
Ils avaient posé des barrages sur les routes sur lesquelles ils vérifiaient que les femmes étaient voilées et accompagnées d'un homme. Ils détroussaient les passants et en tuaient certains sans raison claire, ou en prétextant que c'était des espions.
Habibullah est le proviseur de l'école. Comme beaucoup d'habitants, il se demande ce qui va se passer si les États-Unis retirent leurs troupes.
Sans l'appui des Américains, le gouvernement afghan sera affaibli et il ne pourra pas maintenir son autorité sur le district. Si c'est le cas, la guerre va recommencer parce que les talibans essaieront de revenir. Et cela me fait peur. En plus, quand ils dirigeaient le village, ils ont exécuté beaucoup de gens qu'ils accusaient d'être des espions, alors que c'était des règlements de compte entre voisins. Prenez l'imam de la mosquée, Maulvi Badargul. C'était un homme bien, mais comme il critiquait les talibans et leurs alliés pakistanais, ils l'ont tué.
Officiellement, les talibans tentent de se poser en gouvernement provisoire de l'Afghanistan. Début février, ils ont rencontré des personnalités politiques afghanes et fait une déclaration en faveur de la réconciliation nationale lors de pourparlers à Moscou. Ils ont insisté sur leur désir de respecter les droits des femmes et de lutter contre le narcotrafic. Mais certaines de leurs promesses sont difficiles à croire. L'organisation est impliquée dans l'économie de la drogue. Autour du village de Sadel, dans le district d'Achin, les talibans ont laissé libre cours à la culture du pavot et du hashish. Malik Ousmane Chinwari est le chef d'une importante tribu d'Achin. Pour lui, la drogue finance les talibans.
Pendant les trois premiers mois de leur retour, les talibans ont interdit les narcotrafics. Et puis ils ont commencé à transporter les stupéfiants vers le district voisin d'Ishraq pour l'exporter. Dans la région voisine de Kogiani, ils ont imposé une taxe sur le transport de la drogue. Et très vite, les contrebandiers ont dû payer un impôt aux talibans dans la région. Dans le district voisin de Durbaba, même les fils du gouverneur payaient les insurgés. Les talibans faisaient ainsi transiter les stupéfiants un peu partout pour exporter la drogue vers le Pakistan. Ils géraient même des laboratoires de transformation du pavot.
Malgré tout, le président Trump veut retirer le gros des troupes américaines. L'envoyé spécial américain pour la réconciliation en Afghanistan a fait savoir qu'il visait un accord avec les talibans d'ici juillet. Rien ne dit qu'une telle entente ramènera la paix. Les talibans doivent convenir d'un cessez-le-feu avec les forces de sécurité, puis partager le pouvoir avec le président Ashraf Ghani et les partis politiques. Or, pour l'instant, ils refusent de discuter avec le gouvernement, qu'ils considèrent comme une marionnette des Américains. Mais certains voient dans ce dialogue une opportunité d'en finir avec la guerre civile qui ravage l'Afghanistan depuis plus de 35 ans. Pour Omed Sharifi, directeur du collectif d'artistes Artlords, basé à Kaboul, les Afghans tiennent là une chance de se réconcilier entre eux.
Je pense que tôt ou tard, il y aura un accord de cessez-le-feu entre ces fanatiques que sont les talibans, les seigneurs de guerre, les milices armées et les Américains qui veulent se retirer. Une fois que ce sera fait, alors nous, les Afghans, pourrons commencer à dialoguer et faire en sorte que les talibans, les moudjahidines, ceux qui viennent du Panjshir, de Kandahar, de Kaboul, les artistes se parlent. Enfin, si on peut instaurer une sorte de respect mutuel à travers cela, on pourra envisager de mettre fin au cycle de la violence et lancer un véritable processus de paix.
Emmanuel Derville, à Achin, pour la Deutsche Welle.
Reportage à réécouter, à partager depuis le site de la DW, dans la médiathèque ou via l'onglet Vue d'Allemagne sur la une du site. C'est avec ce grand reportage que se conclut notre magazine pour cette semaine. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous retrouverez Anne Le Touzé à cette même place la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. Et d'ici là, je vous souhaite alles Gute, tout bon, prenez soin de vous. Bis bald, à très bientôt. Tschüss.